La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Je m'appelle Nicolas Mahalouf et je travaille à l'église baptiste Toulouse Métropole. J'ai le plaisir d'être avec vous en cet après-midi. On réfléchira aujourd'hui à la thématique des relations. Et notamment, on parlera de nos conflits. Si vous pensez au contexte de votre travail, de votre famille, vous pouvez rapidement penser à des relations qui, sans être aussi dramatiques que ce qu'on voit à l'international, peuvent quand même être tendues malgré tout. Alors, que faire de nos relations conflictuelles? C'est un peu la question qu'on va se poser. Que faire aussi lorsque cette amertume liée à ces relations finit par envahir toute notre vie à cause d'une blessure subie par le passé, par exemple. En fait, les êtres sociaux que nous sommes vont chercher à tisser des liens et parfois ce lien va être brisé par nos mauvais comportements, mais aussi des mauvais comportements que nous aurions pu subir des personnes qui nous entourent, des personnes qui d'ailleurs nous pensions être très proches de nous, mais qui, du jour au lendemain, nous ont offensés ou trahis. Et la blessure en est d'autant plus profonde. Voyons comment, au sein d'une relation brisée, l'Évangile se propose d'agir, non pas par un coaching ou un conseil moral ou une nouvelle méthode, mais par une personne. Nous allons voir dans l'épître de Paul à Philémon qu'il est question d'un maître de maison, Philémon, qui avait un esclave, Onésime, un homme d'une autre classe sociale qui le servait au sein de sa maison. Et il se trouve qu'Onésime a causé du tort à son maître de maison Philémon et s'est enfui. On ne sait pas exactement quel tort il a causé. Peut-être avait-il volé quelque chose à son maître. Mais le fait est qu'il n'a pas cherché à réparer son tort, ni même s'expliquer envers Philémon, ayant ainsi abusé de sa confiance. Nous verrons ce matin que dans un conflit, la réconciliation ne vient pas naturellement. Elle devient possible lorsqu'une personne accepte de prendre sur elle les torts. En effet, pardonner à ceux qui nous offensent nous semble impossible, surtout si nous pensons pouvoir pardonner sans aide extérieure. Et justement, Dieu nous propose son secours. C'est par son intermédiaire que la voie de la réconciliation est rendue possible. C'est pour cela que j'insiste sur l'idée d'une personne, et pas n'importe quelle personne, le Christ lui-même en tant que seul médiateur pleinement capable d'apporter la réconciliation. Nous allons lire donc cet épître de Paul écrit à Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Appia, à Archip, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as eue au Seigneur Jésus et de ton amour pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître en nous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ton amour, car par toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de l'amour que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, un vieillard, et de plus maintenant prisonnier de Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Et à toi, et à moi. Je te le renvoie, lui, une partie de moi-même. J'aurais désiré le retenir auprès de moi pour qu'il me serve à ta place pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le retrouves pour l'éternité, non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'écris, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à vos prières. Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Jusque-là, c'était la lecture de l'épître de Paul à Philémon. Une lettre écrite vers l'an 62, donc, lors de la première captivité romaine de l'apôtre Paul. Paul écrit donc depuis sa prison et envoie cette lettre qui faisait sûrement partie des lettres exhortant l'église de Colosse. Ici, principalement Philémon. Tout d'abord, quelques mots pour présenter Philémon. Philémon était un homme d'origine grecque et de situation aisée. Des éléments du texte nous montrent cela, comme par exemple le fait qu'il pouvait accueillir une assemblée chez lui. Pour l'époque, avoir une telle capacité d'accueillir autant de monde est synonyme de luxe, et Philémon déborde de bonnes intentions pour se servir de cette situation pour en faire un atout pour l'Église. On apprend que Philémon déborde d'amour et de foi pour Dieu et surtout pour les chrétiens, cet amour donc manifesté par son hospitalité, puisque bien que de classe sociale élevée, il a plaisir à accueillir l'Église sans distinction de classe sociale dans sa propre maison. Et en plus, il semble qu'il le fasse bien. Voyez ce que dit l'apôtre Paul au verset 7. « Nous éprouvons en effet beaucoup de reconnaissance et de réconfort au sujet de ton amour, car grâce à toi, frère, le cœur des saints a été tranquillisé. » Les saints, c'est-à-dire les croyants ici. « Car grâce à toi, le cœur des saints a été tranquillisé. » De quelle manière le cœur des croyants pouvait être tranquillisé par Philémon ? En plus de l'assise théologique de Philémon, qui transparaît dans toute la lettre, c'est aussi une théologie mise en pratique qui fait sa bonne réputation et qui s'est concrétisée par son hospitalité. C'est vrai, il est bon de connaître des choses sur Dieu, mais c'est en connaissant Dieu dans l'intimité qu'un caractère si accueillant est formé dans la vie du disciple de Jésus-Christ. En se souciant que les autres autour de nous grandissent spirituellement et s'attachent davantage à Dieu. Mais même si Philémon connaissait un confort matériel, il se souciait davantage de la croissance spirituelle de ses frères et sœurs dans la foi. C'est une preuve qu'il aimait se laisser diriger par le Seigneur, qu'il aimait accomplir la volonté de Dieu. C'est de cette façon que les membres de l'Église pouvaient voir en lui quelqu'un de rassurant pour leur propre foi. Non seulement l'accueil dans sa maison devait être chaleureux, j'imagine bien le large choix de tisane en soirée ou les petits biscuits préparés, mais les études bibliques passées chez lui devaient être d'un grand rappel du véritable évangile, l'évangile qui nous rappelle que notre foi est basée sur le rocher qui est Jésus-Christ. C'est l'assurance de notre salut en Christ, le plein pardon de nos péchés accompli à la croix. Ce rappel constant de la grâce devait ponctuer chaque explication au sujet de Jésus et de tout le message de l'évangile qui était prêché et partagé lors des soirées d'études bibliques. Ça ne manquait ni de profondeur, ni d'enthousiasme, et c'est en ça que chacun pouvait être fortifié pour le reste de sa semaine en repartant de chez Philémon. En effet, qu'est-ce qu'il était bon de passer ses études bibliques à découvrir ou redécouvrir la foi chrétienne chez ce frère Philémon. Alors Paul reconnaît chez Philémon des grandes qualités en tant que responsable d'église, son hospitalité comme on a vu, son humilité, son amour envers tous et son exposition de la foi qui rassurait les croyants. Mais bien que Philémon ait de bonnes intentions et de grandes qualités, son cœur va se trouver profondément blessé par le mauvais comportement d'Onésime. L'apôtre Paul, sans sous-estimer le mal commis par Onésime, va être réaliste sur les limites de son frère Philémon qu'il connaît si bien, tout en se rappelant que, devant les limites, une puissance qui surpasse toute logique leur a été donnée par Dieu. À lui, Paul, autant qu'à Philémon. C'est rempli de cette assurance que Paul va supplier Philémon d'une requête des plus solennelles. C'est au nom de l'amour qu'il supplie Philémon de laisser revenir Onésime. Le mot amour est bien choisi et fait un rappel avec Dieu qui les a unis. Dieu est amour, il faut donc que ceux qui lui appartiennent vivent aussi cet amour dans les relations entre eux. Ce n'est pas un amour seulement émotionnel. Mais bien plus, c'est un amour relationnel, profond, qui prend racine dans l'amour sacrificiel du Christ à leur égard, de sorte qu'ils puissent s'appeler entre eux frères. En plus de ça, et bien que sa qualité d'apôtre lui donnait une pleine autorité sur Philémon, comme Paul va le rappeler au verset 8, il compte plutôt sur le fait que Philémon désire encore plus plaire au Seigneur qu'à un simple apôtre du Seigneur. Il sait que Philémon aime obéir à la parole de Christ. En d'autres termes, Paul sait qu'il prêche à un convaincu qui s'est laissé bouleverser par le grand amour de Jésus à son égard. Nul besoin d'en dire beaucoup ou d'user de raisonnements complexes parce que le cœur de Philémon est déjà entièrement gagné à l'évangile. Et bien que Paul aurait eu le droit donc d'exiger une telle obéissance de par sa qualité d'apôtre, ce n'est pourtant pas ça qu'il fait. Il a confiance dans le fait qu'un cœur déjà gagné à l'évangile est davantage sensible à la douceur et à l'amour fraternel et au conseil d'un frère. Et c'est ce qu'il use ici. Il use de sa position de grand frère envers Philémon pour parler à son cœur. En effet, l'évangile nous enseigne une approche bien différente des relations humaines. L'obéissance forcée ne va jamais produire le même fruit que l'obéissance suite au constat de la grâce de Dieu reçue. Ce que Paul désire, c'est que Philémon entame volontairement une démarche pour pardonner Onésime. Qu'il vienne sincèrement du cœur de Philémon et non d'une contrainte hiérarchique ou religieuse. C'est d'ailleurs une belle leçon pour nous aujourd'hui pour nos propres conflits. La véritable réconciliation ne s'impose jamais par la force ou l'autorité. Elle se gagne et se vit par le rappel de l'amour que Christ nous a manifesté alors que nous étions ses ennemis. C'est donc au nom de cet amour qu'il lui demande d'accueillir et de pardonner Onésime. Une petite parenthèse au sujet du tort causé par Onésime. On ne sait pas grand-chose sur les détails de cet acte, mais on sait avec certitude qu'Onésime n'est plus le même depuis que Paul lui a annoncé l'évangile. Onésime a dû considérer son péché et a été visité par Jésus, de sorte qu'il se convertisse au Seigneur. Paul l'explique ainsi. « Avant, il t'était inutile, maintenant il est très utile à toi comme à moi » au verset 11. Paul joue ici avec les mots parce que le prénom Onésime en grec signifie « utile ». Paul fait comprendre que désormais Onésime porte bien son nom. Il est vraiment utile, donc il est vraiment Onésime, donc le sens de son prénom. Ensuite, au verset 17, Paul invoque l'argument de l'amitié entre lui et Philémon, pour préciser plus concrètement l'objet de sa requête. Voici ce qu'il dit. « Si donc tu me considères comme ton ami, accueille-le comme si c'était moi. » On dirait qu'il est en train de dire « Les amis de mes amis sont mes amis. » Et c'est un peu cette idée ici. Mais ce qui complique son application, sa mise en pratique, c'est qu'il y a eu un conflit par le passé entre Philémon et Onésime, et donc d'éventuelles amertumes ou traces de rancune. Quelle est la solution efficace face à la rancune? Pour nous, comment réussir à pardonner à ceux qui nous ont trahis, offensés, qui ont fui? Ça semble impossible. En tout cas, à l'homme, c'est impossible sans le secours d'une intervention extérieure, sans le secours d'un médiateur. Bonne nouvelle, c'est l'intention de Dieu de nous secourir à l'aide d'un médiateur. Et qui est ce médiateur? Comment est-il décrit? Eh bien, je vous propose de lire Ésaïe au chapitre 53, des versets 3 à 6. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Voilà, ces quelques versets nous donnent déjà, ou peut-être totalement, la solution dont nous avons tant besoin dans les conflits. si ces quelques versets nous dépeignent le médiateur ultime qu'est Jésus-Christ, mais c'est tout à fait de cela dont on a besoin. Oui, nous sommes brisés par notre propre péché, par le péché des autres. Mais ce médiateur se propose de souffrir bien plus que nous pour que, parce que lui, il a souffert, nous soyons guéris. Parce que lui va prendre comme mépris, comme honte, comme humiliation, tout ce qu'il va prendre sur lui va être guérison pour nous. Va être gage d'une réconciliation dès maintenant et à jamais. De sorte que jamais nous puissions nous sentir seuls désormais. Nous n'avons plus besoin de rester dans notre amertume et de suivre notre propre voie à cause des conflits qui règnent entre nous. Mais maintenant nous avons, dans ce qui nous paraissait être impossible, dans nos relations brisées par exemple, nous avons un chemin tout tracé. C'est Christ, cet homme de douleur. C'est nos souffrances de cœur qu'il a pris, qu'il a porté. C'est toutes nos douleurs et nos peines dont il s'est chargé. Et nous, on le considérait comme puni, frappé de Dieu. Mais non, c'est précisément pour nos péchés qu'il a été blessé et brisé. Et c'est précisément pour que le châtiment qui résidait sur nos épaules ne soit plus sur nos épaules, mais tombe sur Jésus qui nous donne la paix par sa mort à la croix. Waouh, quel rappel de l'évangile! Paul et Philémon étaient émerveillés d'un tel évangile. Et Paul, par toute sa lettre et toute sa requête solennelle à Philémon, lui fait réfléchir, lui donne des pistes pour pardonner à Onésime. C'est vrai, comment ne pas pardonner aux hommes qui nous offensent après avoir reçu un si grand médiateur mort pour nos offenses, un si grand pardon de la part de Dieu, l'offrande de sa vie, de la vie de Jésus-Christ pour nos péchés, pour que notre dette soit totalement effacée à la croix. Comment peut-on se retenir d'offrir un tel pardon à ceux qui nous ont offensés quand nous nous souvenons que nous-mêmes nous sommes au bénéfice de la grâce de Dieu sur nos péchés par Jésus-Christ. C'est au nom de cet amour, l'amour de Jésus-Christ pour des pécheurs tels que nous, que Paul invite Philémon à réfléchir à ce que lui aussi peut être témoin de cette grâce auprès d'Onésime. C'est une façon de dire à Philémon: cher Philémon, mon frère, n'oublie pas que ton salut, tu l'as reçu par grâce. C'est avec joie et volontairement que moi, Paul, j'ai usé de ma liberté pour te communiquer l'évangile, cette parole de vie éternelle. Ne sois pas comme le serviteur impitoyable dont parlait le Seigneur. Au contraire, va puiser abondamment à la source inaltérable de son pardon, qui t'a été accordé à toi aussi, pour que toi aussi tu manifestes ce fruit de grâce auprès d'Onésime. Onésime était autrefois ton esclave et maintenant il est ton frère. Ça me rappelle les paroles de ce cantique de Noël, Minuit chrétien, vous le connaissez probablement. Et je vous lis: le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Waouh, quelle parole d'une profondeur! Imaginez, devant tout ce qui nous divise dans ce monde, voilà des paroles qui nous réunissent. Et quelle parole! La parole incarnée, Jésus-Christ, mort pour nous pécheurs. Le Rédempteur a brisé toute entrave, la terre est libre et le ciel est ouvert. Aujourd'hui, nous pouvons voir un frère où n'était qu'un esclave. Parce que c'est l'amour qui nous unit. L'amour unit ce qu'enchaînait le fer. Je veux juste terminer par ça. Eh bien, bon dimanche à tous. Ça m'a fait plaisir de partager ces quelques moments de grâce avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il se révèle davantage à vous encore aujourd'hui. dans toute sa beauté. Amen.
Quel amour pouvait recouvrir nos péchés? Le Dieu omniscient ne va pas les compter. Jeté à la mer dans l'abysse, ils descendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Qui attendrait ceux qui sans cesse le fuient? Quel Père si tendre nous appelle à lui? Or ses compassions aux plus pauvres s'étendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Quel torrent de bonté sur nous déversé, effaçant la dette impossible à payer. Son corps immolé et son sang nous défendent. Nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande. Gloire à Dieu, sa grâce est plus grande. Inépuisable, ferme et constante, nos péchés abondent, sa grâce est plus grande.